Chapitre 6. Scellés par le Saint-Esprit. Qui de nous aurait pu imaginer à l'avance ce qui allait se passer dans notre esprit à la nouvelle naissance? Que Dieu puisse demeurer en nous et que notre esprit puisse être comme il est dans ce monde défie l'entendement. Si vous avez bien suivi cet enseignement jusqu'à présent, vous devez être en mesure d'affirmer. Je comprends. Je suis une nouvelle personne dans mon esprit. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tel Jésus est maintenant, tel je suis dans ce monde. Mon esprit, le véritable moi, a été créé en toute justice et véritable sainteté. Or, il arrive que les croyants reçoivent ces vérités avec joie. Ils en voient aussitôt l'impact dans leur vie, puis s'en détournent soit à cause du péché, soit de leurs occupations, soit parce qu'ils oublient ce qui s'est passé. Quelque chose se produit et ces personnes se retrouvent dans des situations négatives identiques à celles où elles étaient avant de naître de nouveau. Par exemple, la défaite, le découragement, etc. Se voyant en situation d'échec apparent, elles se disent « Peut-être que j'ai été changée, mais j'ai tout raté, une fois de plus. » Elles remettent en question tout ce que nous avons dit jusqu'ici à propos du salut. « C'était peut-être comme cela au début, se disent-elles. Mais j'ai tout fait rater. Ce ne doit plus être vrai pour moi maintenant. » J'ai une bonne nouvelle. Le changement que Dieu a opéré dans votre esprit restera constant et ne variera pas, peu importe les fluctuations de vos performances. Ce qui arrive aux prisonniers qui naissent de nouveau est une bonne illustration de ce que je veux dire. Leur situation ressemble à la nôtre, car comme eux, nous avons tous des prisons dans nos vies, c'est-à-dire des problèmes qui nous gardent liés. Mais à la différence des personnes qui se trouvent physiquement derrière les barreaux, nos problèmes ne se voient pas toujours aussi clairement. En prison, beaucoup de détenus prennent conscience qu'ils ont gâché leur vie. Ne désirant plus le désordre dans lequel ils se trouvent, ils cherchent désespérément une solution. « Comment faire pour changer? Je dois sortir d'ici, » se disent-ils. Alors, un prédicateur passe par là et leur annonce. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. » Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. La pensée que Dieu les aime et veut complètement changer leur vie correspond tout à fait à ce qui se passe dans la tête de ces prisonniers à ce moment-là. Ils désirent désespérément changer, sortir de là et voir leur vie prendre une autre direction. Donc, ils prient et acceptent le Seigneur. Pas seulement pour un bénéfice éternel, mais aussi dans le but d'un changement immédiat. Le lendemain de leur décision, ils se réveillent et se retrouvent dans la même cellule, face aux mêmes épreuves et à la même peine. S'ils ne regardent qu'au domaine naturel, il leur est facile de conclure « Ah, ça n'a pas marché, la parole n'est pas vraie. Dieu ne m'a pas changé parce que les choses n'ont pas changé. » Ils deviennent souvent vulnérables au découragement, au doute et à l'incrédulité, parce qu'ils ne comprennent pas que le changement a pris place dans leur esprit et que le restant de leur vie chrétienne consiste à renouveler leurs pensées pour croire et libérer ce que Dieu a déjà mis à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce phénomène a également lieu à l'extérieur des prisons. Le lendemain de leur nouvelle naissance, certains nouveaux croyants doutent de la réalité de leur expérience. Lorsqu'ils se réveillent et se retrouvent mariés à la même personne, se rendent au même travail, souffrent de la même maladie, écroulent sous la même montagne de dettes. En fait, il arrive souvent que les problèmes s'intensifient à ce moment-là. C'est simplement le diable qui met en travers de votre chemin tout ce qu'il a, parce que vous n'êtes plus de son côté, et qu'il veut arrêter votre témoignage. Si vous ne faites pas attention, tout peut s'embrouiller et vous amener à penser « Je ne suis pas sûre que quelque chose se soit passé. » Or, le changement s'est produit dans votre esprit, pas dans le domaine physique. En fait, un tiers du changement est déjà accompli. Votre homme nouveau a été créé juste et en véritable sainteté. Éphésiens 4, verset 24. Vous êtes déjà saint. Il n'y a rien à ajouter. Jésus est devenu péché afin que vous puissiez devenir juste. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous, nous devenions la justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus est devenu ce que vous étiez, afin que vous puissiez devenir ce qu'il est. Il a pris vos péchés et vous a donné la justice. Dans les églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens reconnaissent le fait que Jésus a payé le prix pour leurs péchés. Mais ils ne croient pas réellement être devenus justes. Ils pensent que cette transformation prendra place dans le futur, lorsqu'ils arriveront au ciel. Or, d'après 2 Corinthiens 5, verset 21, il n'en est pas ainsi. Il a pris ton passé, votre péché, et vous a rendu ton passé juste. Si vous croyez la première moitié de ce verset, alors vous devez croire la deuxième moitié aussi. Vous êtes juste. C'est en fait. Dieu ne vous considère pas de la façon dont vous vous considérez vous-même. Il considère votre esprit et voit que vous êtes juste. Beaucoup de croyants prient. « Oh Dieu, pardonne-moi. Encore une fois, je ne t'ai pas obéi. Comment peux-tu m'aider ? Ah, aie pitié !» Ils ne reconnaissent pas une vérité essentielle. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les performances de leur corps et de leur âme n'ont absolument aucune incidence sur leur acceptation ou non par Dieu. Donc, si vous êtes né de nouveau, le fait de vous être rebellé ou de ne simplement pas être à la hauteur n'a aucune importance. Dieu vous voit juste et véritablement saint, parce que c'est votre esprit qu'il considère. Dieu est content de vous. Nous ayons prédestinés à être par l'adoption ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Éphésiens 1, versets 5 à 8. Accepter veut dire plus que tolérer. Il est littéralement content de vous. Vous pourriez ne pas être satisfait de l'état dans lequel se trouvent vos pensées et votre corps, mais Dieu vous voit dans l'esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une créature toute nouvelle et il est content de son ouvrage. Accepté dans Éphésiens 1, verset 6, est le même mot grec que celui traduit par « grandement estimé » dans Luc 1, verset 28. Et l'ange Gabriel entra chez elle, Marie, et dit « Je te salue, toi qui es grandement estimé. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Ce sont les deux seuls endroits dans la parole qui contiennent ce mot particulier en grec. Donc, tout comme la femme qui a porté le Christ a été acceptée, vous aussi êtes ainsi grandement estimé par le Seigneur. Une fois que vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit. En lui, vous aussi, vous vous êtes confié après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après avoir cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit de la promesse. Éphésiens 1, verset 13. Votre esprit né de nouveau a été créé en justice et véritable sainteté. Éphésiens 4, verset 24. Tel est Jésus, tel est devenu votre esprit ici dans ce monde. En Jean 4, 17. Il est devenu uni au Seigneur. En Corinthiens 6, 17. Puis, immédiatement, toute cette bonté a été fermement scellée avec le Saint-Esprit. Lorsqu'une femme fait des conserves, elle scelle le pot avec de la paraffine. Cela le rend étanche à l'air et préserve et protège la nourriture qui se trouve à l'intérieur. Les impuretés de l'air ne peuvent entrer à l'intérieur du pot et provoquer l'altération et la putrition des aliments. C'est dans ce sens que le mot « scellé » est utilisé dans Éphésiens 1, verset 13. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit a été immédiatement enveloppé, emballé sous vide par le Saint-Esprit dans un but de préservation. Après avoir été sauvé, lorsque vous échouez dans n'importe quel domaine de votre vie, la pourriture, la saleté et la souillure provenant de votre corps et de votre âme ne pénètrent pas dans votre esprit. Ce sceau du Saint-Esprit garde ce qui est bon à l'intérieur et le mauvais à l'extérieur. Dieu ne regarde pas le péché de la même manière que nous. Pour lui, le péché ne consiste pas seulement à violer un des commandements, mais il consiste aussi à ne pas faire ce que nous savons être juste. C'est pourquoi, pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Jacques 4, verset 17. Personne n'aime son conjoint exactement comme Christ a aimé l'Église, ou n'est aussi passionné qu'il le faudrait lorsqu'il s'agit de s'occuper des autres. Nul d'entre nous ne médite la parole de Dieu autant qu'il le pourrait. Donc, selon cette définition du péché, nous commettons constamment des fautes. Si vous ne comprenez pas que votre esprit a été enveloppé par le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, votre conscience arrivera toujours à vous donner l'impression que vous n'êtes plus juste et que vous avez perdu la véritable sainteté qui caractérise votre esprit né de nouveau. En effet, votre conscience, avec sa connaissance du bien et du mal, parle à votre intelligence et lui apporte constamment le témoignage de vos pensées et de vos actions. Si vous ne faites pas attention, vous permettrez à la connaissance de vos échecs de vous affecter. Vous vous direz alors, « Eh bien, lorsque je suis né de nouveau, Dieu m'a donné un nouveau départ, mais depuis j'ai commis des fautes. » Vous aurez beau les confesser, faire tous vos efforts pour revenir au stade où vous pourrez vous dire, « Me voilà à nouveau, sur les rails, tout va bien. » Il ne se passera pas longtemps avant que votre conscience vous montre une autre faute. Jour après jour, année après année, à force d'avoir des hauts et des bas, ce qui est le cas, vous finirez par penser « à quoi ça sert ?» Cependant, la vérité est que votre esprit a été scellé. Le péché et ses effets ne peuvent pas entrer dans votre esprit. Lorsque vous péchez, votre esprit n'y participe pas. Il garde sa sainteté et sa pureté originale et sa volonté pour l'éternité. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. En Jean 3, verset 9. Cela veut dire que vous êtes aussi juste et saint maintenant dans votre esprit que vous ne le serez jamais. Beaucoup de chrétiens éprouvent de la difficulté à comprendre ce passage, parce que le contexte montre clairement que les chrétiens pêchent effectivement. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons d'ailleurs des illusions et la vérité n'est pas en nous. En Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. En Jean 1, verset 10. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le droit. En Jean 2, verset 1. Voici donc trois exemples tirés de la même lettre où l'écrivain, l'apôtre Jean, parle du péché. Si vous dites que vous n'avez pas péché, vous êtes un menteur. Je vous écris afin que vous ne péchiez pas, temps futur. Mais si vous péchez, vous avez un avocat avec le Père, et si vous êtes né de Dieu, vous ne pouvez pas pécher. En Jean 3, verset 9, cela semble très contradictoire. Les deux premiers passages cités et l'expérience indiquent qu'il arrive aux chrétiens de pécher. Le contexte de l'épître montre donc que le troisième, en Jean 3, 9, ne dit pas réellement qu'il est impossible pour un croyant né de nouveau de commettre le péché. Pourtant, ce verset dit clairement que si vous êtes né de Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Comment cela se fait-il? Pour certains, en Jean 3, 9, signifie que vous ne pouvez pas pécher de manière habituelle. Cette notion apparaît même dans plusieurs traductions actuelles de la Bible. Ceux qui pensent ainsi prêchent. Si vous étiez alcoolique avant d'être sauvé, vous pouvez vous saouler une fois ou deux. Si vous êtes véritablement sauvé, vous ne pécherez pas de manière habituelle. Vous finirez par avoir la victoire dans ce domaine. Ou alors, vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Pour comprendre ce point de vue, vous êtes obligé de classer le péché par catégorie, ce que Dieu ne fait pas. Pour lui, il n'y a pas de gros ni de petits péchés. Pour lui, nous péchons tous de manière habituelle en n'étudiant pas suffisamment sa parole, en n'aimant pas les autres comme il le faudrait ou en ne leur témoignant pas assez de considération. Nous avons tous tendance à être habituellement centrés sur nous-mêmes. Et il doit constamment nous reprendre à ce sujet. Quelquefois, nous passons par-dessus des choses que Dieu qualifie de péché. Par exemple, le Seigneur ne fait pas de différence entre la gloutonnerie, l'ivresse, l'adultère et le meurtre. Deutéronome 21, verset 20. La gloutonnerie est un péché qui ne peut se produire que de manière habituelle. Il n'est pas possible d'être victime d'une surcharge de poids en ne faisant qu'un gros repas occasionnel. Même si vous vous gaviez de nourriture, cela ne ferait qu'un ou deux kilos de différence. Pour atteindre 25 à 50 kilos de plus, il vous faudrait recommencer cela très souvent. Avoir une surcharge pondérale est donc la conséquence d'un péché que l'on commet de manière habituelle. Je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit, mais pour mettre les choses en perspective. Si vous interprétez en Jean 3, verset 9, comme voulant dire que vous ne pouvez pas habituellement pécher si vous êtes véritablement né de Dieu, alors personne ne se qualifierait parce que nous péchons tous de manière habituelle. La seule façon d'expliquer ce texte serait de dire « Eh bien, vous ne pouvez pas commettre les gros péchés de manière habituelle, mais les petits, oui, vous pouvez habituellement pécher. » Ce n'est pas ce que dit ce verset. L'interprétation de en Jean 3, verset 9 devient évidente quand on comprend l'enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps. Votre esprit est la seule partie de vous qui est née de Dieu. Votre âme et votre corps ont été rachetés, mais n'ont pas encore là expérimenté la rédemption. Donc votre esprit ne peut pas pécher, même si votre corps et votre âme le peuvent. Cela veut dire que vos performances ou actions, quelles qu'elles soient, n'affectent pas la pureté ni la sainteté de votre esprit. Cette vérité est cruciale pour votre relation avec Dieu. Si vous faites dépendre son acceptation de vos performances, vous n'y parviendrez jamais. Vous pourrez peut-être vous en sortir mieux que d'autres, mais votre propre conscience vous condamnera. Malgré tous vos efforts, vous serez obligé de reconnaître qu'au bout de tant d'années, vous continuez à commettre les mêmes fautes. Et en définitive, cela vous empêchera de profiter pleinement de l'amour et des bénédictions de Dieu. Par contre, si vous avez compris ce que représentent l'esprit, l'âme et le corps, vous savez que c'est votre esprit qui a changé. Créé en justice et en véritable sainteté, il a été scellé du Saint-Esprit afin qu'aucun péché ne puisse y pénétrer. La justice avec laquelle vous êtes né de nouveau reste non contaminée. Étant donné que Dieu est en esprit, il s'adresse toujours à vous, d'esprit à esprit. Peu importe vos performances, il vous est toujours possible de vous approcher de lui, dans votre esprit né de nouveau. C'est formidable.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.